Dans le cadre de la démarche participative Tous Paysans en Brionnais, une journée de réflexion autour de l'agriculture et de l'alimentation dans le Brionnais a eu lieu le 23 mai dernier sur le thème principal du bocage brionnais à la production d'une alimentation de qualité sur le territoire. Ont été abordées plus particulièrement les potentialités et solutions durables avec la diversification, l'installation, les circuits courts, les labels. La deuxième table ronde avait pour sujet les signes de qualité, quels enjeux pour les producteurs et les consommateurs, avec divers intervenants. Dominique Fayard, chargé de mission au Pays Charolais Brionnais autour de la candidature UNESCO, Stéphanie Duché de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, Stéphanie Limbach de l'Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé, Marine Philippe, animatrice conseillère élevage biologique pour l'association Bio-Bourgogne, et le témoignage de Henri Balladier, agriculteur retraité. Écoutons maintenant les diverses interventions du public.
Il nous reste un moment quand même pour un échange auquel tous peuvent reprendre part. Donc, qui veut profiter du micro qui circule tout de suite, qui va circuler. Oui, derrière, donc Françoise.
Excusez-moi, je vais revenir aussi sur nos produits fermiers, justement. Alors, sur la notion de santé et de valeur nutritionnelle, nous avons obtenu une dérogation au 13 décembre par les fraudes là, pour l'affichage des valeurs nutritionnelles sur les produits donc issus de petites productions. Hein. L'Europe laissait la possibilité de déroger. La France ne voulait pas le prendre, mais un petit peu comme d'habitude. Voilà. Alors, important, pourquoi est-ce qu'on s'est battu? Donc, il y a une dérogation possible pour les producteurs fermiers de ne pas poser ces fameuses valeurs nutritionnelles du règlement INCO. Alors pourquoi il y a eu une bataille? Parce que ça coûtait très cher pour un producteur fermier, toute petite échelle, et qu'il y a une grande variabilité de la matière première. Puis deuxièmement, en fait, le problème de cette information, c'est qu'elle ne touche pas le consommateur qui a besoin de cette éducation. C'est compliqué d'aller lire sur un paquet pour 100 grammes glucides, dont sucre, matière grasse, dont acide gras saturé, protéines, sel. Voilà. Donc, voilà, sur ces aspects-là, moi je pense que c'est pas le bon bout pour l'éducation, l'affichage sur les produits. Et on s'est battu pendant 4 ans, la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, et puis la FNEC ont obtenu cette dérogation le 13 décembre.
Oui, alors effectivement, il y a des exceptions comme vous l'avez dit, sur l'affichage, sur les produits, certains produits. Effectivement, par rapport à ce que vous soulevez sur l'information justement qui est véhiculée sur les recommandations nutritionnelles et le fait qu'effectivement il y a une éducation certaine que effectivement ce n'est pas une information qui est accessible à tous, donc effectivement ce sont des choses qui doivent être travaillées, et c'est pour ça aussi qu'il y a une réflexion sur améliorer justement cette information sur les qualités nutritionnelles des produits. Vous avez certainement parlé des dispositifs Nutri-Score avec les petites pastilles de couleur. Donc il y a encore plein de choses qui sont en discussion, mais on est bien dans l'idée d'essayer de mieux informer le consommateur et que ce soit le plus lisible possible pour avoir cette information santé. Parce que effectivement, si on n'est pas spécialiste sur les questions des nutritions, alors déjà que c'est écrit tout petit, sur les emballages, le consommateur s'y retrouve pas, et on a besoin vraiment de repères très faciles, très lisibles pour pouvoir comparer les produits. Donc il y a encore un gros travail à faire sur ces questions-là.
Une question, oui, pour madame qui vient de répondre. Est-ce qu'il y a des études faites montrant qu'une pomme bio contient plus de vitamines qu'une pomme pas bio?
Alors, il y a...
Situez-vous en deux mots, s'il vous plaît.
Amélie, Henri, je fais partie de l'association Les Villageois, qui a pour but de promouvoir la santé à travers l'alimentation.
Alors effectivement, il y a un certain nombre d'études, mais ça demande encore à être étayé, de voir sur l'ensemble des produits si on a une différence vraiment significative, mais on est plutôt dans l'optique effectivement qu'il y a une plus-value, en tout cas d'avoir des produits de qualité. Donc C'est, il y a des études, mais il faut encore pousser un peu plus pour
voilà. Elles sont pas encore disponibles.
Alors sur les pesticides, sur la question des pesticides et des produits utilisés, là les études sont largement faites, voilà, sur l'impact santé, mais sur l'aspect nutritionnel, ça demande encore d'être étayé. Mais effectivement, voilà, les choses sont plutôt dans.
Mais si on prend le vieil adage, d'abord ne pas nuire à la santé, finalement on sait qu'il y a un certain nombre de choses dont on devrait se passer, et ça, effectivement, ça figure pas sur les étiquettes.
Ça,
donc, vous vouliez prendre la parole aussi, là-bas. Allez.
Toujours à propos de la nutrition, je voudrais prendre un petit exemple. Par exemple, le miel. Alors, le miel, il est considéré comme un sucre absolument nuisible. J'ai vu ça carrément parce que mon mari est apiculteur amateur. Et on s'en est rendu compte dans un journal qui s'appelle La santé de l'abeille. Alors, je trouve ça un peu stupide parce que le miel, d'accord, il y a du sucre, mais il y a des oligo-éléments, il y a des quantités de choses dedans, des vitamines qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et classé avec des petites pastilles rouges, bleues, vertes, jaunes, comme a fait le docteur Herberg, je trouve que c'est très bien parce que ça permet de trier un petit peu. Mais au point de vue information, j'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Berg dans une conférence, et je lui ai posé la question, et il m'a dit, ben oui. Alors je trouve que c'est quand même une réponse un peu courte vis-à-vis d'un produit qui est quand même excellent pour la santé, que n'importe quel produit, si on le mange en trop, ça passera pas et ça a des inconvénients. Mais là, classer le sucre, le miel comme 100% sucre, moi, j'ai trouvé que c'était un peu dur à avaler.
Oui, alors c'est pour ça que je vous disais, effectivement, il faut plutôt, effectivement, sur le produit, effectivement, le miel présente d'autres particularités, effectivement, et peuvent avoir, apporter des éléments nutritionnels indispensables. Mais effectivement, il faut faire la part des choses, effectivement, hein, c'est comme quand vous dites que l'huile d'olive est meilleure pour la santé, si vous consommez toute la bouteille pour faire votre sauce de salade, effectivement. Il faut faire la part des choses. Après, c'est effectivement dans, je disais tout à l'heure, l'équilibre alimentaire et le fait d'avoir un impact positif ou négatif sur la santé, ça vient aussi des quantités que l'on consomme et effectivement des sources, des aliments consommés. Donc il y a, la part des choses à faire. Tout est bon en bonne quantité, j'ai envie de dire.
Vous avez le comté, par exemple, qui est une AOC, qui respecte un cahier des charges AOC, et qui a une valorisation, je crois que au niveau du lait, ils doivent être à plus de 500 euros, à l'heure actuelle, 540 euros la tonne. Vous avez dans le même cas des fromages dans le massif central qui respectent, je dirais, à peu près le même cahier des charges et qui ont, par rapport au prix conventionnel, une plus-value très très minime. Donc il s'agit la plupart du temps de vitalité de la filière, d'imposer par la qualité du produit, par de la promotion, quelque part d'imposer le produit, c'est quelque part ça. Il faut considérer ces signes comme des outils. Je vais prendre un autre exemple, ça a été cité ce matin aussi, une démarche qui n'est pas un signe de qualité, c'est qui le patron ? Vous avez là des producteurs qui valorisent leur lait, je crois, autour de 40 centimes, un peu plus, 39 centimes, voilà, c'est ça, autour de 40 centimes, simplement en ayant conclu un accord avec une GMS et en s'imposant quand même quelques critères qui sont, je crois, du pâturage et du non-OGM. C'est venu d'eux, c'était une initiative, une volonté de le faire. Je crois que c'est ça, et pour tout, c'est pareil. Alors après, bien sûr, il peut y avoir des facilitations. L'an dernier, par exemple, il y a eu une tentative de loi, enfin il y a eu dépôt de la loi même, d'imposer dans la restauration collective 40% de produits sous SICO ou de circuit court, etc. Bon, ça n'a pas abouti pour des raisons tout à fait législatives. Je pense que ça n'aurait jamais été contraignant, mais ça aurait été un signal fort qu'une loi puisse dire, on va mettre on va imposer plus de produits, soit de proximité, soit signe de qualité dans la restauration collective, ce qui aurait sans doute permis aussi, et ça a été dit tout à l'heure, de réduire un peu les produits qui sont pas consommés, parce qu'à l'heure actuelle, je crois qu'il y a environ 20% des produits qui retournent à la poubelle dans les cantines parce que les gens n'aiment pas. Alors quelquefois, en mettre un peu moins, mais mettre quelque chose de bon, ça peut être une solution. Et on milite pour ça.
Ce que vous disiez sur le signe de qualité comme outil, Stéphanie Duché, vous avez peut-être quelque chose à ajouter là-dessus, parce que vous avez esquissé tout à l'heure le point sur le suivant, c'est-à-dire comment l'accès à un signe de qualité ou la pratique, une fois qu'on l'a acquis, d'un signe de qualité pouvait sous-tendre une dynamique collective sur un territoire, avec entre producteurs notamment. Mais pas seulement.
Pas seulement, voilà. En effet, donc il y a toute une dynamique. C'est pas grave.
Parlez même.
Voilà. En fait, si vous voulez, donc oui, je suis très visuelle, alors c'est pour ça. si vous voulez, en fait, les signes de qualité sur un territoire donné, donc on est d'accord, par exemple, le label rouge est un signe franco-français, et donc par exemple, on a donc le label rouge dont parlait Monsieur Balladier, le siège du groupement est basé à Charolles, donc effectivement parce qu'il est lié en plus à la race charolaise, et donc tout naturellement, initialement, il était géographiquement identifié ici, sauf que ce label rouge-là, qui est le 1189, hein, il a un numéro, peut être en fait produit par des éleveurs dans toute la France. C'est la particularité du label rouge, d'accord? Pour autant, sur le territoire du Charolais-Brionnais, ce label rouge participe par l'application de son cahier des charges et les conditions qui sont définies à l'intérieur, participe grandement à la structuration du paysage dont parlait Dominique, à l'économie du territoire, à l'emploi du territoire aussi, parce qu'on est bien d'accord que un seul signe sur ce territoire ne serait pas suffisant. C'est une multiplicité de signes et de productions qui fait que ce territoire est riche, diversifié, et que derrière, ces SICO engendrent d'autres impacts et d'autres dynamiques. Et donc il y a tout un lien en fait qui se crée, des interactions avec tous les opérateurs du territoire en fait. Donc je vois par exemple, on peut avoir un lien avec des parcs nationaux quand il y a un parc national. On a énormément de liens avec les restaurants en locaux, notamment par rapport au patrimoine gastronomique. C'est une mise en valeur de ces produits sous SICO qui permettent aussi aux restaurateurs de les mettre en valeur, mais aussi derrière de développer, d'attirer, etc. Et du coup, tous ces signes participent à la notoriété complète du territoire, que ce soit sur des enjeux économiques, sur des enjeux environnementaux, sur des enjeux sociaux, bien évidemment, parce que tout à l'heure, j'ai bien aimé, c'est un des premiers mots d'ailleurs qui a été prononcé dans la première table ronde, c'est qu'on parle d'hommes, ce ne sont que des histoires d'hommes. Et du coup, on vit sur des territoires d'hommes, avec des productions, mais qui sont faites par des hommes, ce sont des choix humains, et donc ce sont des ententes humaines et des décisions humaines partagées qui aboutissent à des démarches et à une structuration de paysage particulière qu'on souhaite défendre et protéger. Voilà. Et donc, ce sont que des outils. Et il y en a plein d'autres, en fait. Hein. Les SICO, c'est pas énorme, au final, sur l'ensemble de la production agricole française. Mais c'est un outil, notamment, de développement rural, j'insiste.
Oui, moi, je pense qu'on pourrait peut-être dire, et ça en se reliant aussi à la démarche Tous Paysans, ici en Brionnais, que quand il s'agit d'un territoire relativement restreint, les dynamiques sont d'autant plus intenses. J'ai en tête ce qui s'est passé autour de la rigotte de Condrieu ou autour de la fourme de Montbrison quand elle a voulu se distinguer de la fourme d'Ambert et de Montbrison. Donc là, maintenant, il y a une appellation propre à la fourme de Montbrison qui est des monts du Forêt, si vous voulez, seulement 28 communes. C'était des dynamiques interacteurs et pas seulement interpaysans qui ont été très fortes. Peut-être que il y a, dans certains cas, l'avantage de se relier à un signe de qualité déjà reconnu et d'une aire géographique assez vaste, mais aussi d'autres avantages en termes de dynamique interacteur et de force de développement d'avoir un territoire restreint. Il faut doser entre les deux, sans doute.
Vous avez raison, mais dans la plupart des cas, sauf en agriculture biologique, où il n'y a pas de structure, j'allais dire, transversale entre producteurs et toutes les étapes, tous les autres signes, il y a ce qu'on appelle un organisme de gestion, qui est en fait le lieu où se retrouvent les producteurs, les transformateurs, éventuellement les distributeurs, et qui gère l'ensemble du système, y compris les contrôles et l'organisme certificateur.
Il manquerait peut-être une représentation des consommateurs.
Il peut éventuellement, oui, effectivement. Mais c'est pas interdit. Après, l'ODG est ouvert.
Tout à fait. Les ODG, donc les groupements de producteurs sont totalement ouverts puisque l'INAO les reconnaît. C'est-à-dire que, outre le fait de reconnaître le produit sous la dénomination demandée, l'INAO s'assure également que le groupement porteur de la démarche respecte un certain nombre de règles et notamment le fait qu'il soit ouvert, qu'il soit totalement transparent et que l'ensemble de ses décisions soit totalement démocratique et équitable au niveau de tous les opérateurs de la filière. Et dans les structures comme celle-ci, les consommateurs peuvent tout à fait entrer. Alors, ils n'ont pas le pouvoir de vote, hein, mais ils sont totalement acceptés. Et il faut savoir qu'au sein des instances de l'INAO, les instances décisionnelles dont je vous parlais, quand on parlait de 50% de producteurs, opérateurs des filières, il y a aussi, siège aussi, des représentants des consommateurs. C'est une structure qui est totalement transparente, en fait, vis-à-vis de son travail et des décisions qui sont prises.
Merci. Alors, peut-être encore une ou deux questions ou interventions dans la salle. Allez-y.
Oui, donc on a parlé tout à l'heure d'augmentation de l'obésité. On parle des marqueurs, étiquettes rouges, vertes ou petits signes illisibles sur les paquets. Qu'en est-il de l'évolution de la législation télévisée? Parce que les émissions qui ciblent les gamins avec un petit défilé pour des gamins qui ne savent pas lire, que la pub qu'il ne faut pas trop en manger, qu'il faut consommer, ça me paraît un peu scandaleux, quoi.
Alors, il faut savoir que pour les publicitaires, il y a l'obligation d'imposer ce petit bandeau que vous voyez pratiquer une activité physique régulière, de rappeler en fait les bonnes pratiques en alimentation et en activité physique. Donc ça, ce sont des obligations qui sont posées. Effectivement, il y a un travail qui est fait aussi avec ces publicitaires, notamment justement pour essayer, notamment sur les programmes, sur les heures de diffusion qui sont plus centrées sur les enfants ou sur les chaînes qui sont plus ciblées, voilà, effectivement, sur les programmes plus jeunesse. Il y a quand même un travail de plus en plus qui est fait pour essayer de valoriser des produits qui sont, de faire passer en tout cas des messages en termes de santé, et puis d'essayer de réduire ces publicités qui vantent notamment les mérites des produits sucrés, gras, salés, etc. Donc il y a encore du chemin à faire, mais il y a quand même un travail qui est fait avec les publicitaires et avec les chaînes de télé pour essayer de mieux communiquer auprès des enfants et de réduire les messages, en tout cas la publicité, la promotion des produits qui sont le moins favorables pour la santé et qui présentent un intérêt moindre d'un point de vue nutritionnel.
Merci. L'autre, oui, allez-y. Attendez le micro, s'il vous plaît.
Je viens d'un territoire voisin, le territoire rouennais, et je voudrais un peu appuyer votre intervention. Nous sommes aussi en dominante élevage, beaucoup de charolais aussi, et c'est vrai que le problème a été quand même assez lié aux primes, qui a fait qu'une démarche comme la vôtre, il y en a peu qui l'ont fait, c'est-à-dire engraisser castrer les broutards et les mener en taurillon, ça nécessite en bœuf, je veux dire, parce que c'est taurillon, c'est pas terrible non plus. En bœuf, ça nécessite beaucoup de trésorerie aussi, un peu plus de surface, et surtout, on a beaucoup moins de primes. Et je vois que sur notre territoire, c'est dur à faire changer ce système. On s'aperçoit, par exemple, sur tout le département de la Loire, cette année, en 2016, il y a eu 14 000 broutards exportés. Donc Italie, Espagne, Chine, ça part de partout. Ça représente presque toute la production de broutards de notre département, quoi. Donc là, c'est, vous avez un territoire qui a dominant élevage aussi, et ce changement de système sera étudié et les soutenir surtout. Surtout, moi je suis en agriculture biologique, on se rend compte que les aides n'arrivent plus, elles vont peut-être être même remises en question. Je sais pas comment elles fonctionnent, mais c'est vrai que ça demande quand même du soutien de ces éleveurs qui ont choisi un autre modèle, une autre forme de transformation et de vente avec de la qualité derrière. Et le système actuellement ne permet pas cela. Nous, sur notre territoire, c'est dommage parce qu'on a deux abattoirs, Sicarem et l'abattoir de Charlieu, qui demandent qu'à avoir plus d'animaux locaux sur leur territoire. Voilà. Et puis, ça répond aussi à une valorisation des herbages. On a des beaux herbages et c'est dommage que nos broutards y partent, ils soient engraissés après avec de l'ensilage maïs dans les plaines du Pau ou autre. Voilà.
Oui, c'est vrai, mais je suis pas sûr que quand la décision du positionnement des primes a été prise en accord avec la profession, hein, il faut bien le dire, hein, les syndicats ont été associés à ce positionnement. Je suis pas sûr qu'on ait mesuré à l'époque les effets induits de ce positionnement. Bon, on le voit maintenant, c'est comme ça. Je ne sais pas si un jour ça se modifiera, mais au-delà de ce que vous dites, je trouve qu'il y a aussi, il y a clairement une perte de notoriété, puisque plus de la moitié des animaux qui naissent vont se faire engraisser ailleurs, et que si on était à 80% des animaux qui naissent sur le territoire qui sont finis ici, avec des conditions précises et de la promotion, etc., je pense qu'on serait effectivement beaucoup plus fort.
En tout cas, aussi, raison de plus d'encourager des dynamiques concertées entre producteurs, ces producteurs-là dont vous parlez, et les consommateurs du même territoire. Alors, un dernier tour de parole ici, pour celles qui le souhaitent, pour qu'un point important qui vous semblerait oublié pour le moment, et puis après nous devrons conclure cette table ronde.
Je voulais juste rajouter quelque chose là sur justement l'engraissement des bovins mâles. Donc en bio, c'est aussi un problème, hein, parce que les broutards, ils sont pas du tout valorisés dans le circuit bio. En fait, ils repartent dans le circuit conventionnel. On avait fait des statistiques que j'ai plus vraiment en tête sur les élevages bourguignons, donc des élevages bio, hein, la plupart des mâles partent en conventionnel, j'ai plus le chiffre exact, et donc c'est quelque chose que sur lequel on travaille, hein, au sein des organismes de développement de la bio, et aussi en concertation avec les opérateurs de la filière viande sur l'engraissement, donc déjà des femelles, hein, pour commencer, pour qu'elles soient toutes finies, et ensuite des mâles en bœuf ou en veau, par exemple.
Dominique Fayard, vous avez quelque chose à ajouter ?
Non. Non. Moi, je voulais juste ajouter, en fait, par rapport donc aux alertes que vous faites. Enfin, je veux dire, justement, on parlait des signes de qualité. Les signes de qualité sont là justement pour soutenir les éleveurs dans leurs choix. Et ces choix, et ces bons choix, et ces bonnes orientations. Donc après, effectivement, l'INAO s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin, et après on a les règles européennes, donc avec la PAC, mais peut-être que M. Brunet interviendra, mais au niveau de la PAC, on sent quand même qu'il y a d'énormes changements sur les critères, donc futurs à venir, des critères d'attribution des primes, notamment au niveau des élevages bovins, à l'étang. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi encourageant. Alors après, c'est un petit travail de fourmi. Mais les signes de qualité et les éleveurs qui sont intégrés dans ces signes, on s'aperçoit que c'est eux qui s'en sortent toujours le mieux, entre guillemets. Tout du moins, on essaye pour obtenir une plus-value, une valorisation, essayer de s'en sortir, les encourager et les soutenir dans leurs choix et les orientations qui, plus est, qui s'intègrent parfaitement dans les politiques actuelles et à venir, qui sont toujours dans cet objectif d'écologie et d'environnement. Et donc, on est dans la bonne ligne avec les signes de qualité. Donc, restons positifs et
ça va aboutir. Après, il y a d'autres choix qui sont faits sur ce territoire qu'on ne maîtrise pas, qui est notamment l'envoi donc en Italie. Mais parce que c'est une autre stratégie commerciale. Enfin, clairement, les choix économiques sont faits comme ça. Et c'est aussi une plus-value pour d'autres éleveurs. Voilà, il y a chacun vit à côté. Et tout le monde fait ses choix et tout le monde peut s'entendre et ça participe quand même à l'économie aussi du territoire.
Merci. Donc n'oubliez pas, un dernier point, allez-y.
Un petit commentaire si vous n'ennuyez pas. Ça va peut-être pas nous mettre en appétit, mais il faut quand même juste constater que depuis qu'on met de l'argent dans l'agriculture, sous toutes les formes, on est de plus en plus pauvre. Hein? Alors on en parlera peut-être cet après-midi. Mais à un moment donné, il y a une réforme monumentale qu'il va falloir faire, ouais. Parce que d'autant que, enfin moi j'ai une place à Bruxelles, donc ça me parle un petit peu, hein, aujourd'hui on n'a pas encore compris, ni à Paris, ni à Bruxelles, ce que c'était que l'agriculture. Hein, et on voit encore l'environnement comme une contrainte, ce qui est juste pathétique. Hein, on croit qu'il faut protéger la nature, on croit qu'il faut protéger l'environnement, on croit qu'on n'a qu'à voir le dégât aujourd'hui de la politique des MAE et tout ce qui va avec, quoi. On n'avance pas. On met un bout de pansement sur un truc, mais jamais on va traiter la cause.
Vous nous traduisez MAE ?
Mesure agro-environnementale. Merci. Truc qui sert à pas grand-chose.
Et vous situez en deux mots ?
Comment ?
Pouvez-vous vous situer en deux mots ?
J'interviendrai cet après-midi. Je suis président de l'Association française d'agroforesterie et directeur d'une structure d'agroforesterie dans le Gers.
Si vous permettez juste un commentaire, moi je vous laisserai bien sûr la paternité de vos propos, mais par rapport à ce que vous avez dit, et puisque je suis pas tenu par le devoir de réserve,
moi non plus.
Je vous dirais que s'il y avait que dans l'agriculture le fait qu'on injecte de l'argent et que on est de plus en plus pauvre,
c'est pas une raison.
Ça veut peut-être dire que l'argent qui est mis n'est pas de façon, à bon escient. Et qu'il faut peut-être réfléchir qui et comment aider. Ce sera peut-être le mot.
Voilà, donc n'oubliez pas d'indiquer sur les post-it de couleur rose ce que vous avez principalement retenu de cette deuxième table ronde. En tout cas, ils ne sont pas forcément roses dans vos poches, mais vous les mettez sur la fiche rose. Rendez-vous à 14h30 pour la troisième table ronde. Peut-être que des consignes doivent être données pour la suite, pour le repas.
Fin de cette deuxième table ronde sur le thème « Signes de qualité, les labels, quels enjeux pour les producteurs et les consommateurs ?»